Vous écoutez France Culture.
Et à 11h, comme chaque jour sur France Culture, c'est Question d'époque, proposée par Caroline Brouet. Bonjour à tous. Dans les questions d'époque aujourd'hui, place au droit et aux questions juridiques avec vous Antoine Garapon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Au sommaire de votre bien commun, en fin d'émission, on retrouvera Sébastien Miller pour sa chronique du monde judiciaire. Une chronique consacrée ce matin au règlement juridique de la discrimination à l'embauche de personnel de la fonction publique. Le crime passionnel du XVIIIe siècle à aujourd'hui, c'est le thème que vous avez retenu pour cette émission Antoine. Mais pour commencer, et comme chaque mercredi, un détour par l'actualité juridique, les livres, les revues, les colloques. Avec vous Harold Épineuse et votre agenda. Bonjour Harold.
Bonjour Caroline.
Dans l'agenda cette semaine, alors c'est une spéciale Jean Carbonnier d'une certaine façon, hommage au doyen Jean Carbonnier dont on fête le centenaire de la naissance.
Et oui, c'est une grande figure du droit qu'il convient de consacrer notre agenda au moment même où un colloque et un livre viennent célébrer son œuvre. Alors, né en 1908, décédé en 2003, le doyen Jean Carbonnier fut professeur à l'université de Poitiers jusqu'en 1965, puis à l'université Panthéon-Assas à Paris jusqu'en 1976 où il créa 8 ans auparavant le centre de sociologie du droit. Jean Carbonnier fut le type même du professeur plus réactif, ne se contentant pas de donner les cours de sa charge de professeur, il fut l'auteur de manuels de droit civil qui ont marqué toute une génération par la clarté de sa plume et la richesse de ses commentaires. Des commentaires qui prolongeaient l'exposé du droit de données historiques, sociologiques, de politiques législatives aussi, dans la dernière partie de chaque chapitre, fort justement dénommé « Pour aller plus loin ». Le doyen Carbonnier est surtout l'auteur d'une œuvre considérable qui touche à la philosophie mais qui deviendra mondialement connue comme la nouvelle école française de sociologie du droit. Inspirateur des réformes du droit de la famille et du droit des successions modernes dans les années 60 et 70, Carbonnier a donc légué quelques ouvrages parmi les plus originaux et intelligents d'une littérature ouverte sur le droit non exclusivement réservée aux juristes. Flexible droit, par exemple, pour une sociologie du droit sans rigueur, dont la 10e édition a été publiée en 2001 chez LGDJ peu avant sa mort, ou alors Droit et passion du droit sous la 5e République, publié par les presses universitaires de France en 1996, pour ne citer que ces deux-là. La liste de ces articles et diverses collaborations serait trop longue, bien sûr, à établir.
Oui, mais Harold, il y a précisément un livre qui permet de retrouver certaines de ses contributions et qui vient juste de sortir au PUF.
Oui, c'est un livre sobrement intitulé « Écrit » au pluriel, un livre dirigé par Raymond Verdier, une compilation de contributions connues et d'autres moins connues, regroupés par thèmes « Famille et patrimoine », introduit par Pierre Catala et Catherine Labrusse-Rioux, « Normes et sanctions », présenté par Jacques Comaille et Denis Salas, « Droit et sciences sociales », autre partie présentée encore par Jacques Comaille et Jacques Poumarède, et enfin une partie sur « Histoire, sociologie religieuse et théologie », un autre grand thème de méditation pour Carbonnier, des textes là présentés par Olivier Abel.
Un livre et puis un colloque en hommage cette semaine à Paris.
C'est aujourd'hui et demain, en effet, au Sénat, un colloque organisé par la bibliothèque CUJAS, la grande bibliothèque de droit française, en coopération avec l'association française Droit et Culture. 2 jours d'hommages politiques, universitaires et professionnels mettant en scène l'héritage et le rayonnement du doyen Carbonnier, c'est le titre des parties qui ponctuent ces 2 journées. Le programme et le nom des intervenants seraient un peu fastidieux à énumérer. Alors pour ceux qui n'auraient pas le temps ou l'envie de se rendre au Sénat tout de suite, proposons cette idée. La meilleure façon de rendre hommage à Jean Carbonnier, c'est encore de le lire vraiment.
Écrit, dirigé par Raymond Verdier, paru chez PUF. Merci beaucoup Harold Épineuse et à la semaine prochaine. On passe au dossier du bien commun sur le crime passionnel, Antoine.
Amour et justice, les deux mots ne marchent pas toujours d'un même pas. C'est pourquoi le bien commun a voulu aborder le sujet de leur relation ce matin en confrontant 2 points de vue, celui de l'histoire et celui de la psychologie sociale, et en comparant 2 époques, le XVIIIe siècle et l'époque contemporaine. 2 regards sur les passions amoureuses, 2 regards sur la disparité des conditions masculines et féminines, 2 regards enfin sur les difficultés et les maladresses de la justice qui doit intervenir au milieu des passions humaines. Le crime d'amour a-t-il le même sens au XVIIIe siècle que maintenant ? C'est la question que je poserai à mes 2 invités, Patricia Mercader enseigne la psychologie sociale à l'Université de Lyon 2. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages et notamment d'un dernier ouvrage intitulé « Psychosociologie du crime passionnel » qu'elle signe au PUF en compagnie de Annick Well et de Helga Sobota, avec équipe, si je puis m'exprimer ainsi, avec lequel vous aviez déjà signé un livre sur le crime passionnel, crime ordinaire.
Oui, le premier livre était...
C'est ça. Voilà. Et pour en discuter avec Patricia Mercader, Benoît Garneau enseigne l'histoire moderne à l'Université de Bourgogne. Il est spécialisé dans l'étude des archives judiciaires. On lui doit un très grand nombre d'ouvrages. Je n'en retiens que deux. Le précédent, je crois, intitulé « Questions de justice » aux éditions Belin en 2006, 1667-1789. Et plus récemment, en 2008, un ouvrage intitulé « On n'est point pendu pour être amoureux, la liberté amoureuse au XVIIIe siècle ». Alors, première question que j'adresse à l'historien, quand on parle de crime passionnel, un crime passionnel, quel sens cela peut-il avoir au XVIIIe siècle, si tant est qu'il en est un ?
Le crime passionnel, n'existe pas en tant que définition juridique au XVIIIe siècle.
Pas plus que maintenant, d'ailleurs.
Pas plus que maintenant. En revanche, dans les circonstances du crime, la passion peut être prise comme circonstance atténuante. Si la passion, quelle qu'elle soit, pas forcément uniquement amoureuse, si la passion entraîne un déclin de la lucidité de la personne, enfin du coupable, ça peut entrer en compte comme circonstance atténuante. Donc diminuer la peine qui est décidée.
D'une manière générale, on est assez surpris à vous lire de voir la disparité des peines au XVIIIe siècle pour les mêmes crimes qui vont, je parle sous votre contrôle, qui vont du bannissement ou d'un blâme à la peine de mort. C'est une très grande variation.
Oui, l'un des principes de la justice d'Ancien Régime, c'est que les juges sont libres des peines qu'ils décident, ce qu'on appelle l'arbitraire, qui a pris aujourd'hui un sens péjoratif, mais à l'époque, ce n'était pas péjoratif, c'est la liberté de choisir. Donc, ils se décident en fonction de différents critères et ils peuvent ne pas tenir compte des lois éventuelles qui concernent les différents crimes. Mais de toute façon, les crimes que nous appelons passionnels ne sont pas définis par la loi. Donc, la liberté des juges est totale donc, en fonction des circonstances, ils peuvent décider quelque chose d'extrêmement minime ou quelque chose d'extrêmement important comme peine. Donc, ça peut nous étonner parce que nous, il y a pour chaque crime des peines qui sont prévues avec une certaine échelle. Enfin, on peut varier un petit peu. À l'époque, ce n'est pas le cas. À l'époque, il y a une liberté qui vient du fait que chaque juge est supposé tenir une parcelle de la justice que le roi lui a déléguée. Et à partir de là, le roi étant souverain, peut décider ce qu'il veut.
Alors on viendra.
Le juge est un petit roi, si vous voulez.
C'est ça. Et un substitut du roi.
Un substitut du roi.
Alors on reviendra sur les lettres de rémission qui jouent un grand rôle en la matière. Mais alors plongeons-nous directement dans le crime passionnel au XXe siècle que vous avez étudié, Patricia Mercader. Comment est-ce que vous y êtes prise pour étudier le crime passionnel, qui n'est pas une notion juridique d'ailleurs aujourd'hui?
Non, pas du tout. C'est tout à fait comparable. C'est une cause éventuelle de circonstances atténuantes, et c'est tout. C'est plutôt une notion médiatique. Alors, pour l'étudier, on a procédé en plusieurs temps. On a commencé par recenser sur 8 années dans la presse régionale toutes les affaires qui concernaient des crimes commis dans un contexte amoureux, conjugal ou simplement sexuel. Et puis, ça donnait 357 crimes. On a fait une première extraction pour faire notre premier livre, Crime passionnel, crime ordinaire, qui porte sur le discours médiatique, c'est-à-dire la construction sociale de la catégorie crime passionnel, et puis aussi, à travers ces faits divers, quelles sont les représentations sociales dominantes ou de ce que c'est qu'un bon couple, un bon mari, une bonne épouse, etc. Et puis, pour le deuxième livre, on a complété en allant chercher 46 dossiers d'instruction à la cour d'assises de Lyon. Et donc, le deuxième livre est une étude sociologique statistique sur les 357 affaires, avec un complément plus clinique sur les 46 affaires qu'on a étudiées en détail.
Et vous avez été surprise de ce que vous avez trouvé dans les dossiers judiciaires?
Je crois qu'on est parti avec des illusions un peu romanesques, peut-être. C'est-à-dire qu'au moment où on a eu envie de faire ce travail, qui a duré très très longtemps, qui a demandé beaucoup de matériel. C'était long, tout bêtement.
Et puis qui a été compliqué par les problèmes de photocopie et
d'accès. Des problèmes d'accès au matériel très, très complexe. Donc, au début, on s'imaginait qu'on allait rencontrer des grands passionnés, rencontrer Julien Sorel, rencontrer Othello. C'est pas du tout ça. En fait, d'abord, les histoires de crimes dits passionnels, parce que maintenant, on parle comme ça, dits passionnels, qu'on a étudiées, c'est surtout des histoires de famille.
Quand vous dites histoires de famille, ces histoires sont plusieurs générations,
on y reviendra. C'est ça. Histoires sur plusieurs générations, oui. Et ce sont plutôt des histoires de détresse, de dépendance, que des histoires de passion, en fait.
Ça vous surprend, Benoît Gargaud ?
Non, parce que quand je vois des crimes justement au sein des couples au XVIIIe siècle, on se rend compte très souvent que quand on peut avoir les documents, parce que dans la plupart des cas, la procédure a disparu, mais quand la procédure est restée, on s'aperçoit très souvent que derrière les prétextes amoureux, il y a en fait des raisons qui sont très souvent pécuniaires, en réalité. L'apparence est assez romanesque, mais la réalité est souvent beaucoup plus sordide. Et souvent, on cache un crime qui est fait pour des raisons matérielles, tout simplement, sous des prétextes qui sont passionnels, qui paraissent plus nobles, qui peuvent surtout donner des circonstances atténuantes quand on est jugé.
Et pourtant, on qualifie le XVIIIe siècle comme le siècle de l'amour, comme cette sorte d'apogée du libertinage et du moment où en Europe, et plus particulièrement en France, éclot le sentiment amoureux, se libère le sentiment même amoureux des prescriptions religieuses et peut-être même sociales.
Oui, mais je crois que c'est une idée fausse, c'est une idée reçue. Je suis persuadé que le sentiment amoureux est bien plus ancien. Est libéré depuis beaucoup plus longtemps. Au XVIe siècle, on a des affaires amoureuses qui sont très connues. Au XVIIe, on a l'impression que tout cela est un petit peu réprimé, avec la contre-réforme catholique en particulier. Mais c'est toujours le problème de l'histoire moderne, de l'histoire de l'Ancien Régime. C'est ce qu'on voit d'après la théorie, d'après les textes normatifs, les textes des moralistes, les textes des juristes.
Les factums, notamment.
Les factums, qui peut paraître très rigide. Les critères, les nécessités morales sont très fortes. Et puis, il y a ça. Et puis, à côté, il y a la réalité. Et la réalité, elle est extrêmement différente. Et ça choque personne, d'ailleurs. Il y a comme une norme qui est établie. Tout le monde sait que cette norme, on ne l'atteindra jamais. Et puis, les pratiques sont tout à fait différentes.
Et pourtant, on a l'impression qu'au XVIIIe, la sensibilité sociale, l'opinion publique, dirait-on aujourd'hui, en termes modernes, évolue considérablement. Et même parfois, à vous lire, en l'espace de 10 ans, on voit des peines décroître de proportions vertigineuses.
Oui, l'opinion évolue sans aucun doute. Mais elle évolue moins qu'on ne le penserait. Je veux dire qu'au XVIIe siècle, on a des gens qui sont condamnés de façon très forte pour des crimes d'amour, mais finalement, au total, même s'ils sont un peu plus nombreux qu'au XVIIIe siècle, ils sont quand même très peu nombreux par rapport à la réalité des faits incriminés. Donc on a cette impression parce qu'en effet, statistiquement parlant, il y a une évolution, mais ces statistiques, elles portent sur des chiffres qui sont tellement faibles qu'ils ne sont pas vraiment significatifs.
C'est ça. Alors une des voies d'entrée, on va revenir sur le XVIIIe siècle, une des voies d'entrée contemporaine, moderne, Patricia Mercader, du crime passionnel, c'est ce qu'on appelle plus généralement les violences domestiques, les violences conjugales. C'est une des voies, ensuite il y en a une autre, par la soumission ou la domination masculine ou la soumission féminine, qui vous amène à renouveler le vocabulaire d'ailleurs à travers laquelle on pense le crime. Alors, comment est-ce que vous pouvez caractériser cette première grille de lecture, et puis on verra si elle est pertinente pour le XVIIIe siècle. Les violences conjugales, un milieu qui pousse ou qui porte ou qui annonce une fin peut-être dramatique.
Alors effectivement, d'abord sur le plan statistique, des climats de violence conjugale sont tout à fait prévalents dans ces couples ou ces familles qui vont aboutir à un crime dit passionnel. C'est-à-dire que vraiment, parmi les femmes dont nous avons étudié les histoires en détail, c'est presque toutes ont subi des violences conjugales. Plus de la moitié des hommes, les deux tiers très probablement, qui vont en venir au crime conjugal, eux aussi ont pratiqué des violences de façon tout à fait régulière. Donc ça, c'est un premier axe d'interprétation très important. Alors ça ne veut pas dire que le crime dont, que nous avons étudié est une rixe qui aurait mal tourné, par exemple, dans le couple. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il est même très rare, mais c'est peut-être aussi une question de corpus, puisqu'il est même très rare que les femmes soient tuées à force de coups. Mais en revanche, on voit bien que, et en particulier, c'est au niveau des mobiles affirmés de ces crimes, des mobiles invoqués par les auteurs. Pour ces crimes, on voit très bien une dissymétrie tout à fait profonde. C'est-à-dire que ces hommes qui sont des hommes violents vont tuer des femmes qui les ont quittées, éventuellement, le moment après la...
Oui, on y reviendra sur la séparation, qui est vraiment particulièrement délicat.
Les femmes tuent pour... elles tuent des hommes qui les ont frappés. Je veux dire que... Alors, la grille d'interprétation ici, c'est une grille qui nous conduit directement à réfléchir à l'inégalité qui se manifeste, l'inégalité entre hommes et femmes, qui se manifeste dans la vie privée, dans la famille, dans le couple.
Alors, on va revenir sur cette inégalité qui pose beaucoup d'autres problèmes. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce climat de violence et sur l'historien que vous êtes. Comment réagit-il? Comment transposerait-il au XVIIIe siècle, d'après ce que vous pouvez savoir à travers les archives judiciaires et sur l'histoire générale? Est-ce qu'il y a un climat de violence analogue qui peut faire penser à celui qui est décrit aujourd'hui? Ou est-ce qu'on n'est pas dans une domination qui est plus intériorisée et dont les rôles sociaux sont plus stables, en quelque sorte?
Mais pour répondre à cette question, mon problème, c'est que j'ai peu d'archives, finalement, puisque la plupart des conflits conjugaux restent dans le huis clos des familles et ne passent pas en justice. Alors, ça veut dire que, de toute façon, qu'il y a une conception des choses qui est que l'homme est le maître dans son foyer, de même que le roi est le maître dans le royaume, et qu'à partir de là, on tolère, on trouve normal de sa part, une certaine violence. Bon, c'est pas quelque chose qui choque, à condition que cette violence ne soit pas excessive. Donc ce qui n'est pas admis, c'est la violence qui est dangereuse pour la santé de la femme ou des enfants. Une violence modérée fait partie de ce qui est admis théoriquement, ça fait, et personne ne s'en étonne. Bon, puis ça, de toute façon, encore une fois, c'est aussi la théorie, c'est ce que disent les moralistes en particulier. Et dans la réalité, les choses sont peut-être différentes. C'est pas parce que l'homme est théoriquement le maître que dans tel ou tel couple, il l'est véritablement. Donc on a là aussi probablement un hiatus, une différence entre la théorie et la pratique. Et je ne peux pas apporter de réponse en termes statistiques. Quoi.
Alors, en termes statistiques, vous dites quand même qu'en mesurant la fréquence des crimes conjugaux, si on compare avec les chiffres que vous rapportez, Patricia Mercader, le chiffre est assez faible.
Il est très faible.
Il est très faible. Alors, est-ce que vous pouvez nous...
Pour donner une idée, en Bourgogne, pour tout le XVIIIe siècle, je dois avoir une quinzaine de crimes conjugaux à peu près pour tout le siècle. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. C'est toujours le problème de l'interprétation des archives judiciaires. Première hypothèse, s'il y a peu de crimes jugés, c'est parce qu'il y a peu de crimes commis. Bon, c'est l'hypothèse au premier degré, en quelque sorte, premier niveau. Deuxième hypothèse, il y a sans doute plus de crimes commis, mais ils ne sont pas dénoncés. Ils ne vont pas en justice. Ils ne vont pas en justice parce
que... Et comment pourrait-il ne pas aller en justice alors qu'il y a quand même un cadavre?
Il y a un cadavre, mais pour que ce cadavre soit transformé en victime... Il faut qu'il y ait un consensus du milieu, de la famille ou des voisins, enfin des gens qui sont là sur place, pour dire ce cadavre, il est le résultat de coups, d'un crime. On peut très bien dire ce cadavre, même s'il y a des traces de coups, ça peut être en réalité interprété comme autre chose. Elle est tombée dans l'escalier, ou il est tombé dans l'escalier, ou la nuit il s'est cogné, il avait trop bu, il est tombé dans le puits ou des choses.
Et tout ça par défaut de consensus social finalement sur la nomination de cette pratique.
C'est-à-dire que on considère que ce qui se passe au sein de la famille ne concerne que la famille. C'est l'expression que j'ai tout à l'heure, dans le huis clos des familles. Donc, dans la plupart des cas, les gens ne vont pas se mêler de ce qui se passe chez le voisin pour qu'on ne se mêle pas de ce qui se passe chez eux. Donc, je crois que c'est resté très longtemps, puisque, en fait, les violences conjugales sont depuis peu de temps à l'ordre du jour, en réalité. Et elle le sent encore de façon minoritaire, mais moins qu'auparavant, on considère que ça fait partie des affaires privées, quoi. Donc on n'intervient pas. Le voisin peut entendre les coups, les cris. Dans la plupart des cas, il ne va pas intervenir.
Patricia Mercader, ça vous surprend, ce faible chiffre et cette sorte de pacte de silence entre familles pour ne pas s'occuper, que personne ne s'occupe de ce qui se passe chez le voisin.
Alors non, ça ne me surprend pas du tout. C'est vrai que la prise en compte, même la nomination, l'étude des violences conjugales, c'est tout récent. C'est il y a quelques années seulement que l'État français a financé une grosse enquête sur les violences faites aux femmes et qui fait apparaître que les violences conjugales, entendues dans un sens assez large, ça concerne une femme sur 10 tout de même. On en est aujourd'hui à dire qu'en Europe, au minimum, une femme meurt tous les 4 jours de la main de son conjoint et un homme tous les 16 jours. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a une forte dissymétrie entre les sexes, mais par ailleurs, ce sont quand même des chiffres extrêmement importants. Mais d'un autre côté, quand on voit comment ça se passe, ces crimes, en fait, presque toujours, c'est la chronique d'une mort annoncée. C'est-à-dire que dans tous les dossiers, on lit, mais les voisins, la famille ont dit « ça va mal finir » et n'ont pas osé s'en mêler. On a le récit d'une femme, par exemple, qui est tuée par son mari. Tous ses collègues de travail voyaient venir le drame, voyaient qu'elle était frappée, mais n'osaient pas lui en parler au prétexte du respect, parce qu'il la respectait.
Oui, oui, mais est-ce que vous... Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Et est-ce que vous ne pensez pas que votre jugement n'est pas faussé par le fait que vous ne voyez que les histoires qui sont mal terminées? Il y a aussi des couples qui entretiennent un climat de violence, et on le sait d'ailleurs pour les femmes battues, qui ne se débouchent jamais sur un meurtre. Tant mieux. Tant mieux, et en même temps, ça veut dire des vies entières de soumission à la violence, à la violence quotidienne. Donc, est-ce que... Oui, bien sûr, on n'intervient pas, mais en même temps, il est plus facile de traiter un western ou un roman policier quand on connaît la fin. Vous voulez dire quelque chose ?
Oui, je voulais dire que je trouve des choses tout à fait comparables. J'avais étudié une histoire de crime passionnel dans un autre livre il y a une quinzaine d'années, qui se passait en 1725 ou 28 en Bourgogne. Et là aussi, tout le monde savait avant que ça finirait mal. Tout le monde savait que la femme qui allait tuer son mari, ça se passe dans ce sens-là, cette fois-là, avait essayé de l'empoisonner à plusieurs reprises auparavant. Elle avait demandé différentes recettes à des sorciers du coin. Elle était allée voir l'apothicaire pour lui demander des poisons. Bon, tout le monde le savait. Tout le monde savait que le mari avait été malade, mais n'était pas mort. Le mari lui-même le savait. Et personne n'en a parlé en justice. Il a fallu qu'un jour, elle paye des tueurs à gages, comme dans le Far West. On est dans le Charolais, mais c'était les mêmes mœurs. Bon, qui l'ont abattu d'un coup de fusil dans un chemin un soir, pour que l'affaire aille en justice, parce que c'était un noble, parce qu'il était important. Donc bon, c'était quand même un gros crime, donc la justice est quand même intervenue. Mais tout le monde le savait avant.
Alors, vous avez mentionné l'empoisonnement. Vous avez trouvé un dossier d'empoisonnement sur les 450 que vous avez étudié, Patricia Mercader? Est-ce que l'empoisonnement n'est précisément pas un des modus operandi, une des manières de faire qui a véritablement disparu au XXe siècle?
C'est devenu très rare. C'est devenu très rare. Les modus operandi les plus fréquents chez les hommes comme chez les femmes, là aussi on s'imaginait à tort trouver des différences importantes, ce sont les armes à feu et les couteaux de cuisine. Et puis quelques méthodes plus rares comme... l'immolation par le feu, on doit avoir quelques empoisonnements, mais très peu. Non, c'est pas du tout.
Mais vous semblez, l'un et l'autre, déplorer cette absence de prévention, en quelque sorte, du crime passionnel. Quelle conclusion vous en tirez, personnellement? Si vous voulez, la position contraire, une position extrêmement préventive, aboutirait à un contrôle social, oui, et un contrôle de l'intimité qui serait, à beaucoup d'égards, insupportable.
Oui. Alors, je pense que... Ouais, il ne faut pas non plus tout mettre du même côté. Les choses sont très subtiles et sont difficiles à analyser. Plus on s'éloigne d'ailleurs et moins on a d'informations. Mais on trouve aussi dans les archives au XVIIIe siècle des cas où des voisins vont parler à l'homme ou à la femme violent pour lui dire « Non, il ne faut pas faire ça, ça va trop loin ». Et on finit par le savoir si vraiment c'est allé trop loin et si l'affaire passe en justice. À ce moment-là, on finit par savoir qu'il y a eu des interventions. Mais c'est la pression du milieu, mais pour autant, on ne va pas jusqu'à la justice.
C'est ça, oui. Patricia Mercader.
Oui, moi, c'est pas que... Ce que je déplore en réalité, parce qu'il y a bien en tant que psychologue social quelque chose que je déplore, c'est qu'on voit qu'il y a des appels à l'aide. Il s'agit de couples, ceux qui vont finir si mal, il s'agit de couples où fréquemment nous avons des appels à l'aide, soit de la femme qui s'enfuit, cherche à retourner dans sa famille, où elle n'est pas très bien reçue, qui porte plainte, ou au minimum fait au commissariat ce qu'on appelle une main courante. Soit de l'homme, puisque la prévalence du crime oui. commis par des hommes est infiniment supérieure, soit de l'homme lui-même qui va demander des anxiolytiques, par exemple, ou demander des antidépresseurs à son médecin, parler à son médecin, etc. Et en fait, on se rend compte que ces appels à l'aide de la future victime, du futur auteur, quel que soit le sens dans lequel ça va se passer, sont très peu entendus, très mal entendus. Alors, au nom du respect de la vie privée, c'est sûr, et je suis bien d'accord avec vous, trop de contrôle social, c'est insupportable, mais aussi au nom d'une certaine légitimité de la chose. C'est-à-dire qu'au fond...
C'est une acceptation de
il y a une acceptation
tacite. Violence acceptable
voilà, dans le couple. Par exemple, une mère... d'une femme qui a été tuée après avoir été très longuement violentée, menacée, etc., dit quelque chose comme « Oh, de temps en temps, une gifle partait. » Et, ma foi, ça passe encore comme quelque chose de relativement légitime.
Arnaud, ça vous...
Oui, oui, mais l'appel à l'aide, on le trouve aussi au XVIIIe siècle. En fait, la seule façon pour une femme d'en sortir, c'est, puisqu'il n'y a pas de divorce à l'époque, c'est d'obtenir la séparation de corps. Bon, elle ne peut l'obtenir que devant un tribunal. Et on a un certain nombre de dossiers de demandes de femmes battues qui demandent la séparation de corps. Et il est rarissime qu'elle soit accordée. C'est rarissime.
Alors, c'est très surprenant.
On a même des textes très précis. Je pense à un texte d'un magistrat grenoblois, du procureur général au Parlement de Grenoble, à propos d'une affaire où la femme était battue. Bon, c'est tout à fait net et clair. Et il écrit que pour ce genre de femme qui est d'un milieu populaire, eh bien, c'est pas trop grave parce qu'elle est habituée à une vie rude. Et le mari doit être le chef, par conséquent, c'est normal. En fait, les seuls qui obtiennent parfois la séparation de corps pour ce genre d'affaires sont les femmes des milieux les plus élevés parce qu'elles sont considérées comme plus délicates. Donc les coups risquent davantage de leur faire
oui.
mal.
Et puis on pourrait dire aussi, parce que l'identification est plus facile entre le magistrat et la femme d'un niveau plus aisé.
Sans doute.
Benoît Gardon, on s'imagine le XVIIIe siècle, d'une manière générale, le passé comme une époque plus heureuse que la nôtre, dans laquelle les médiations naturelles sont plus vives et sont plus efficaces. On est surpris à vous entendre de voir qu'il n'y a pas tant que de médiation aussi bien familiale que de la part de l'Église, finalement, est-ce qu'il y a de la médiation sociale spontanée oui. au XVIIIe siècle
dans ce
domaine?
Oui, il y a de la médiation. Vous avez parlé de l'Église à l'instant. Je suis persuadé qu'il y en a. Je suis persuadé que des choses se disent en confession dans ces cas-là. Seulement, le secret de la confession fait que nous n'en savons rien.
Vous me frappé d'avoir un exemple que vous rapportez où un curé appuie une demande du choix d'une concubine.
Oui. Les curés ne sont pas ce qu'on croit bien souvent. Ils sont proches de leurs ouailles et ils font souvent passer les nécessités sociales avant les nécessités de la foi. Si la médiation, je crois qu'elle est importante justement, mais ça passe souvent par le domaine de l'oral, de l'oralité.
Et donc, c'est
il ne reste pas grand-chose. On en trouve des traces, mais de façon biaisée, en quelque sorte, quand des témoins déposent, par exemple. Donc, on apprend qu'il y a eu telle ou telle intervention. Donc, on sait qu'il s'est passé des choses. Mais on ne sait pas dans quelle proportion, mais on sait que ça existe. Mais elle est présente, la médiation sociale. Je crois qu'elle est plus qu'aujourd'hui. De toute façon.
Alors, elle est plus qu'aujourd'hui. Question qui s'adresse directement, qui interpelle directement Patricia Mercader. On a assisté quand même ces dernières années, ces 20 dernières années, à toute une effervescence d'un tissu social pour les femmes maltraitées, des foyers pour les accueillir, un dispositif de prévention, des numéros verts, phénomène relativement nouveau historiquement. Alors, quelle appréciation portez-vous sur ces mécanismes et sur leur efficacité?
Alors, sur leur efficacité, on n'a pas énormément de données. Et comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, moi, étant donné que mon travail part des affaires qui ont très mal fini, ça fausse un petit peu, j'ai pas les moyens de répondre complètement à votre question. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que certaines chercheuses nord-américaines ont travaillé un peu sur cette question pour essayer de comparer, en fonction des états des États-Unis, quel impact le nombre de lieux d'accueil pour des femmes battues, par exemple, pouvait avoir sur la prévalence du crime conjugal. Et elle souligne le résultat qui m'a le plus frappée. C'est un résultat qui peut sembler paradoxal au départ, c'est-à-dire que l'existence de lieux d'accueil pour les femmes battues diminue le nombre de crimes conjugaux commis par des femmes. C'est-à-dire que, du coup, elles peuvent partir et que partir les empêche d'en venir à tuer le conjoint violent. En revanche, ça n'a pas vraiment d'effet sur l'homicide conjugal commis par l'homme, puisque après le départ de la femme, il y a une période très dangereuse.
Très dangereuse, c'est ça. Alors, c'est ça. Voilà. Alors, vous avez, maintenant, venons-en à la séparation. Il y a un lien évident entre la séparation ou la menace de séparation et le crime passionnel.
Du côté des hommes, oui. Pas du tout du côté des femmes. Du côté des hommes, alors du côté des hommes, et là on est au niveau des motifs allégués, des motifs invoqués, c'est-à-dire que c'est pas forcément les vrais motifs. On a plus de la moitié des hommes qui tuent une femme qui les trompe ou dont ils pensent qu'elle les trompe. Plus de la moitié des hommes qui tuent une femme qui les quitte ou qui les a quittés ou dont ils craignent qu'elle va les quitter. Et comme on peut avoir plusieurs mobiles associés dans la même affaire, quand on réunit les deux, ça fait 75%. Donc, les trois quarts de ces crimes commis par des hommes, c'est dans le contexte de la séparation ou de l'adultère redouté ou réel. En revanche, côté femme, c'est pas du tout comme
c'est
ça.
C'est la capacité de la séparation.
Oui, peut-être. Côté femme, c'est vraiment plus de la moitié des femmes tuent un homme avec qu'elles ne s'entendent pas, qui les frappe, qu'elles vivent comme persécuteurs d'une manière ou d'une autre ou qui attaquent leurs enfants. Donc, on a un petit peu brutalement résumé la chose en disant les hommes tuent les femmes pour les garder et les femmes tuent les hommes pour s'en débarrasser. C'est un petit peu,
c'est un petit peu à la serpe.
Mais bon.
Oui. C'est le cas de le dire. Mais quelle sorte de crime par anticipation, oui. En quelque sorte. Pas d'analogie qui vous frappe avec le 18e siècle sur la, dans lequel vous remarquez qu'il y a quand même une part existante et qui n'est pas négligeable de femmes qui tuent leur mari.
Le problème est de savoir si, quand une femme tue son mari, elle n'est pas plus fréquemment poursuivie que quand un homme tue sa femme.
Et pourquoi ça? C'est ce que vous semblez dire. Pourquoi cela?
C'est parce que ça choque davantage la conception qu'on a de l'organisation sociale, l'organisation de la famille en particulier. Alors attention, je ne veux pas dire que l'homme peut tuer sa femme avec impunité, absolument pas. Quand on peut prouver qu'un homme a tué sa femme, bon, il est condamné à mort et même à la roue en général, ce qui n'est pas...
Sauf s'il peut montrer son infortune et s'il peut prouver qu'il a été trompé.
Alors le seul cas où il y a, non pas pardon, mais remise... rémission du crime, c'est quand l'homme surprend sa femme en flagrant délit d'adultère. Donc dans ces cas-là, s'il tue la femme, sa femme et puis l'amant éventuellement en même temps, il va être poursuivi, mais il va demander une rémission au roi qui va remettre le crime et il sera ainsi libéré. Mais c'est très rare. D'abord parce que au XVIIIe siècle, l'adultère, on préfère ne pas le mettre sur la place publique. Et les maris trompés, dans la plupart des cas, préfèrent qu'on ne sache pas. Et que
ils ont peur du ridicule. Vous insistez beaucoup là-dessus sur d'autres, d'autres
Le ridicule tue plus que la justice, en réalité. Et le véritable tribunal de l'adultère, c'est l'opinion publique. Et pas la justice, à part quelques cas exceptionnels, mais c'est vraiment très rare.
Alors qu'on a l'impression qu'au XXe siècle, c'est le huis clos. Et je parle sous votre contrôle, Patricia Mercader, mais on a l'impression d'un huis clos terrible, tragique, dans lequel ce face-à-face qui va mal tourner, qui est ce crime annoncé, dites-vous, ne trouve pas son tribunal dans l'opinion, dans la société.
Oui, je pense que effectivement, les familles dans lesquelles ça se produit sont des familles qui tendent à vivre... très entre soi, avec des réseaux de sociabilité restreints, avec une atmosphère de contrôle réciproque extrêmement forte,
étouffante,
avec l'idée que chez nous, on est comme ça. Chez nous, c'est comme ça, avec une certaine façon de fonctionner où tout le monde est supposé fonctionner de la même manière, une loi interne de la famille extrêmement pesante, Donc effectivement, c'est une atmosphère de huis clos.
Et même parfois, je pense à un cas en particulier dans lequel on a l'impression qu'une femme recherche ce huis clos, c'est-à-dire recherche cette je n'ose pas dire cette soumission, mais cette conformité et cette vie à deux en dehors du monde.
Oui, enfin, il y en a
quelques-unes. Il y en a plusieurs, mais je pense à une sur laquelle vous avez insisté.
Oui, je suppose que vous parlez de... ça y est, voilà, j'ai oublié quel pseudonyme nous lui avons donné. La femme d'Ahmed.
La compagne d'Ahmed. Oui.
D'Ahmed, oui, c'est une femme qui, effectivement, a vécu dans une famille extrêmement... je dirais extrêmement oppressive, mais... À peu près toutes les femmes qui en viennent à ce crime de type conjugal ont vécu dans des familles où elles étaient soumises à un contrôle extrêmement serré dès leur enfance, un contrôle en particulier sur leur corps, sur leur sexualité, une assignation à la vie domestique. Elle a vécu tout cela. Et puis, après des moments d'errance, elle idéalise complètement un homme qui lui fait retrouver cette soumission.
C'est ça. Et ce passage, alors que je parle sous votre contrôle, mais à lire les cas que vous rapportez, il n'y a pas d'entre-deux entre l'errance, voire la prostitution dans certains cas, et ce huis clos à deux.
Oui, c'est vrai. Et souvent, il n'y a pas d'entre-deux parce que... Ça, c'est en tant que psychologue, je pense que c'est lié à une dynamique familiale très particulière. Ces femmes ont grandi dans une ambiance où elles étaient soumises à un traitement finalement assez paradoxal. D'un côté, ce contrôle très fort sur le corps, sur la sexualité, cet empêchement à investir la sphère publique, la sphère de la culture, etc. Et puis d'un autre côté, une négligence fondamentale, c'est-à-dire
un abandon
fondamental qui peut être physique. Je pense à l'une d'entre elles qui raconte que quand elle avait une douzaine d'années, elle a été obligée de faire du stop pour aller à l'hôpital parce que ses parents s'occupaient pas du fait qu'elle avait une appendicite en train de se déclarer, mais qui est surtout une négligence psychique très profonde, c'est-à-dire qu'on les écoute pas, quoi.
Alors, on a abordé, donc, on pourrait en dire, bien sûr, en dire beaucoup plus sur... Vous avez employé l'expression, Patricia Mercader, les vrais mobiles, les vraies raisons. C'est bien, bien malin qui pourra dire quelles sont les vraies raisons d'un crime passionnel comme celle d'un suicide. On est dans le mystère de l'âme humaine. Et pourtant, on peut émettre des hypothèses, ce que ne vont cesser de faire, et ça semble vous irriter d'ailleurs, les psychologues et les psychiatres dans les dossiers que vous avez étudiés au tribunal de Lyon.
Oh, c'est pas que ça nous irrite, non. Les psychiatres auprès des tribunaux sont devant une tâche extrêmement compliquée. Ils voient une fois, deux fois au maximum quelqu'un. Ils doivent définir le degré de sa responsabilité à cette époque-là et à l'époque sur laquelle nous avons travaillé ou de son discernement aujourd'hui. Et puis surtout, ils doivent exprimer leur conception psychiatrique dans des termes intelligibles pour les juristes et surtout pour les jurés. Et ça, c'est un travail de traduction qui est extrêmement compliqué. Alors, quelquefois, ça dérape, mais leur tâche est quand même vraiment difficile.
Et tâche d'autant plus complexe, et alors qui peut d'autant plus vous irriter, qu'ils ne peuvent pas aborder les tendances lourdes de la société ou la position longue du social, et notamment la différence de statut, cette asymétrie des genres entre qu'on appelle domination masculine, où vous citez tout un florilège d'expressions, mais finalement pour désigner une asymétrie des rôles selon les sexes, qui ne peut pas être pris en compte par la justice.
Ça ne peut pas être pris en compte par la justice, ça je ne sais pas, ça pourrait peut-être. En tout cas, il y a des Nord-Américaines qui disent qu'on devrait en venir à définir la notion de légitime défense de façon différente en fonction du fait qu'on appartient à un groupe dominé ou à un groupe dominant. Personnellement, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, mais enfin, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus.
Blame the victim, critiquer, blâmer la victime, blâmer la victime. En matière de meurtre de Marie, oui.
Et sinon, pour rebondir sur ce que vous dites sur le florilège de définitions possibles, ce que nous avons tout de même tiré de cette étude, c'est que dans ces familles-là, pour décrire le fonctionnement de ces familles-là, c'est l'un des termes les plus radicaux qui ait été proposé par des sociologues, la sociologue Colette Guillaumin en l'occurrence, qui est peut-être le plus adapté, puisque elle parle d'appropriation des femmes. Et dans ces familles-là, effectivement, ce que nous avons pu voir, c'est que côté homme, il est nécessaire d'avoir sa femme, au sens vraiment fort de l'appartenance, pour être un homme, pour avoir une identité masculine bien affirmé, et que côté femme, il y a le sentiment qu'on ne peut pas ou on n'a pas le droit de s'appartenir vraiment. Une idéalisation de l'appartenance à l'autre.
Moi, là encore, je vais me faire l'avocat du diable et j'aimerais savoir comment Benoît Garneau réagit en 18e ministre. On pourrait soutenir aussi que c'est l'instabilité des rôles sociaux qui explique cette augmentation des crimes passionnels. C'est manifeste dans une des histoires que vous rapportez où une femme, finalement, veut vivre sa vie. Elle veut vivre sa vie car elle en a les moyens socialement. Parce qu'aujourd'hui, qu'une femme vive sa vie est quelque chose qui est non seulement admis, mais valorisé, qui fait partie de notre, et qu'on n'a pas pu dire ça, de tout le XXe siècle. Et on sent que le mari ne supporte pas cette émancipation. Il ne supporte pas que cette femme ne lui appartienne plus. Alors, et on pourrait dire, mais de manière très sommaire, je m'en excuse, Benoît Garneau, de dire au XVIIIe siècle, les rôles sociaux sont plus intériorisés, sont plus stables, la domination est mieux acceptée, donc il y a moins de crimes passionnels.
Moins de crimes passionnels, c'est malheureusement la question à laquelle on ne peut pas répondre. En revanche, il est certain que les problèmes se posent différemment, oui, et que l'idée de l'autonomie d'une femme ne se pose pas. Donc il y a quand même des crimes, mais qui se produisent pour d'autres raisons. Donc cette raison-là n'intervient pas. Ceci dit, on peut considérer que l'adultère est une façon de vivre une certaine autonomie.
Donc, et c'est le cas au 18e.
C'est le cas au 18e, oui. Donc, je dis, l'adultère est sans doute... tout dépend aussi beaucoup des milieux. J'étais frappé dans ce que vous disiez. J'ai l'impression que les crimes aujourd'hui dont vous parlez concernent surtout des milieux très populaires.
Non.
Non.
Les milieux dans lesquels on vit entre soi et le modèle de relation... le modèle, on va dire, fusionnel de relations familiales, ça n'est pas seulement les milieux populaires, oui. Pas du tout.
Non, pas du tout. Oui, sauf que dans les milieux qui ne sont pas populaires, il y a une capacité de verbalisation et une capacité de symbolisation, un terme que vous employez souvent, qui permet beaucoup de choses, mais qui permet peut-être de relâcher un peu de pression. Ça ne veut pas dire que ces crimes n'existent pas dans les milieux de classe aisée, mais il me semble y avoir quand même plus d'échappatoires par la culture et par l'éducation.
En tout cas, la population de nos 357 crimes est complètement conforme, enfin la répartition en fonction des classes sociales est complètement conforme à la répartition dans la société en général. La seule surreprésentation, et elle est faible, qu'on rencontre, c'est la catégorie des artisans commerçants. Et on s'est dit que le fait de travailler ensemble compliquait peut-être ou ajoutait peut-être des enjeux financiers. J'ai été frappée par le fait que vous parliez d'enjeux financiers. Nous, on n'a pratiquement pas trouvé ça.
La charcuterie, l'affaire de...
Oui, un petit peu, mais enfin, c'était surtout le sentiment d'être trahi chez la charcutière en question. Et puis, sinon, on a une sous-représentation des retraités. Mais ça, c'est peut-être le veuvage naturel qui fait que...
Benoît Garneau.
Oui, le problème pécuniaire, il intervient, je crois, beaucoup chez moi, enfin, au XVIIIe siècle. C'est surtout le problème des dots qui ne sont pas payées. Et des dots non payées entraînent des heurts au sein des couples qui peuvent ensuite déboucher, évidemment, dans une petite minorité de cas, sur des crimes conjugaux. Mais je pensais plus généralement qu'une chose est les causes apparentes du crime conjugal et une autre chose les problèmes de fond. Et je me demande si le problème de fond, c'est pas, dans la plupart des cas, des problèmes de tempérament, de relation au sein d'un couple, qu'on peut ensuite déguiser sous des prétextes divers, qui peuvent être aujourd'hui, bon, ma femme veut être autonome, qui pouvait être au XVIIIe siècle, la dot n'a pas été payée ou des choses comme ça.
Oui, mais il y a une volatilité des relations aujourd'hui qui n'est pas possible au XVIIIe siècle. Il y a, quand on voit la difficulté d'obtenir une séparation de corps, il n'y a pas beaucoup de solutions juridiques, j'entends, je ne parle pas socialement.
Justement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les causes sont, théoriquement, sont moins pesantes qui devrait mener à des crimes conjugaux.
C'est ça,
puisqu'il y a, puisqu'il y a la possibilité.
Et nous avons une augmentation.
Et pourtant, nous en avons une augmentation. Donc, c'est pour ça que je dis qu'au-delà de l'apparence, il y a sans aucun doute des problèmes de, comportementaux, oui, des problèmes psychologiques, mais là, je ne suis pas spécialiste de la question, qui font que.
Alors, je me retourne vers la spécialiste de psychologie sociale. Comment vous expliquez, finalement, cette augmentation, on n'a aucun moyen de le dire, d'affirmer, mais bon, quand même, c'est cette grande importance, aussi bien dans notre imaginaire démocratique contemporain, des violences domestiques, qui était très, très importante, comme vous le soulignez, que la réalité de ces pratiques. Quelle hypothèse avancez-vous, Patricia Mercader ?
Alors, c'est un peu cruel à dire peut-être, mais c'est vrai qu'il me semble que les familles dans lesquelles se produisent ces événements sont des familles, ou des couples en tout cas, dont les protagonistes sont restés un petit peu au bord du chemin de cette égalité croissante. Oui, bien sûr, aujourd'hui, vous parlez d'une volatilité du lien amoureux ou du lien conjugal, mais pour ces individus-là, c'est pas volatile du tout parce que
c'est peut-être le problème. Ça n'arrive pas à bouger.
Ça n'arrive pas à bouger du tout. C'est-à-dire que je sais pas. On raconte l'histoire d'un homme qui tue sa femme dans le noir, dans un moment de passage au noir aussi, hein, dans un moment où il a complètement perdu conscience de ce qu'il fait. Pour lui, la perdre, c'est mourir. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, il y a les mobiles allégués et puis il y a les mobiles profonds. Cet homme se plaint d'être abandonné, mais il se plaint pas d'être dépendant, il se plaint pas d'être fusionnel. Et c'est parce que il a, dans la dynamique familiale, dans l'atmosphère familiale dans laquelle il a grandi, été, comment dire, modelé, à des relations très fusionnelles, impossibles à cesser, impossibles à rompre. Il y a une impossibilité à se détacher de l'objet. Peut-être aussi parce qu'il n'y a jamais eu la possibilité de se créer à l'intérieur de soi un objet suffisamment stable qui permet précisément qu'à l'extérieur on puisse aller.
Là, on n'est plus dans la répartition des rôles par genre, on est dans des destins individuels, on est dans l'histoire individuelle, qui croit souvent d'ailleurs des histoires d'alcoolisme qui semblent être un point commun avec le 18e siècle, Magarno.
Oui, tout à fait. Dans les témoignages qu'on a, l'alcoolisme est très présent. Mais pour revenir à ce qui vient d'être dit, moi, je me méfie un peu de cette affirmation, cette impression qu'il y a une augmentation du nombre de ces crimes aujourd'hui. Il y a une augmentation de notre sensibilité à ces crimes qui nous fait donner l'impression qu'il y en a plus peut-être. C'est le même problème que pour la pédophilie. La pédophilie n'est pas plus importante sans doute aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Seulement, nous y sommes sensibles alors que la société ne l'était pas il y a 50 ans. Je crois pas qu'on peut mesurer quantitativement, d'ailleurs, pour quelques crimes que ce soit.
Oui, mais alors, même si on en reste au niveau de l'attention, il est très frappant de voir que l'inceste n'est pas un problème. On ne connaît pas du tout les chiffres de l'inceste, mais à vous lire, Benoît Garnon, l'inceste ne fascine pas et n'interpelle pas et ne choque pas la société du XVIIIe siècle comme elle choque les sociétés démocratiques contemporaines, toutes.
L'inceste étant par définition un crime domestique. Donc, au sein des familles, au XVIIIe, on ne s'en préoccupe pas.
Et est-ce qu'au 18e, il y avait un grand intérêt? C'est une autre émission, et il est beaucoup trop tard pour poser la question, mais je ne résiste pas. Est-ce qu'au 18e siècle, il y a cette importance du fait divers aujourd'hui, et du fait divers qui porte souvent sur de la violence familiale, et encore plus sur un crime d'enfant? On remarque que c'est ce qui martèle nos... Est-ce que ça existe?
Alors, le fait divers, oui. Il y a beaucoup de petites publications, qu'on appelle les canards par exemple, qui remportent un très grand succès, les factums d'avocats aussi.
C'est quoi un factum d'avocat?
Un factum d'avocat, c'est une plaidoirie écrite. D'accord. La plaidoirie écrite qui est distribuée dans le public. En revanche, si les faits divers intéressent beaucoup, ceux-là, plus précisément, non, n'intéressent pas. Ce sont d'autres types de crimes, en particulier des assassinats... essentiellement enfin du brigandage ou des choses comme ça.
L'empoisonnement aussi. Alors,
l'empoisonnement, éventuellement. Mais parce que l'empoisonnement fait extrêmement peur, parce qu'on ne peut pas prouver l'empoisonnement au XVIIIe siècle. On n'a pas les moyens techniques pour le prouver. Donc n'importe quoi peut interpréter comme un empoisonnement.
C'est le réceptacle à tous les fantasmes paranoïaques.
Un homme ou une femme qui a mal au ventre peut penser que c'est sa femme ou son mari qui l'empoisonne. Donc ça fait énormément peur. C'est pour ça, sans doute, qu'aujourd'hui, il y a peu d'empoisonnement, parce qu'aujourd'hui, on peut prouver.
Bien sûr.
Et puis, l'empoisonnement, c'est quelque chose de réfléchi, alors que peut-être qu'un bon nombre de crimes sont plus spontanés, même si on les voit venir depuis longtemps, le passage à l'acte est peut-être plus... On ne s'y attend pas forcément.
Patricia Mercader, comment vous expliquez, c'était le thème de votre précédent ouvrage, mais vous poursuivez un peu... Comment expliquez-vous cette fascination, mais l'importance que prennent les violences domestiques? Alors, elles recouvrent une importance réelle, il y a un retard rattrapé, on est bien d'accord. Et en même temps, ça et le terrorisme occupent littéralement nos journaux télévisés. Quel regard de psychologue social portez-vous là-dessus? Sorte de crainte pour le lien de filiation, une sorte d'interrogation qui vient précisément, je prends l'hypothèse d'Alain Ehrenberg, de la mobilité des rôles sociaux. Et c'est précisément parce qu'ils sont mobiles qu'ils deviennent beaucoup plus inquiétants et que chacun est mis en demeure en quelque sorte de l'inventer.
Oui, ça pourrait être une interprétation. Moi, je pense plutôt que c'est une question de groupe de pression. Enfin, c'est vrai qu'il a fallu, que les femmes s'organisent pour faire entendre que c'était plus un problème, que c'était pas vraiment un problème de vie privée, que la vie privée c'est politique et que il faut que les pouvoirs publics prennent en compte ces problèmes-là. Ça, je pense que c'est
donc un résultat, une victoire du combat des femmes. Eh bien, Patricia Mercader, Benoît Garneau, merci. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Benoît Garneau, On n'est point pendu pour être amoureux, la liberté amoureuse au XVIIIe siècle chez Belin. Patricia Mercader avec Annick Well et Helga Sobota, psychosociologie du crime passionnel.
Et bien sûr, ces références bibliographiques ainsi que les liens, l'écoute en ligne et le podcast sur le site internet de France Culture à la page Le bien commun des questions d'époque. Vous écoutez France Culture, c'est l'heure de la chronique de Sébastien Miller dans Le Bien Commun. Aujourd'hui, Sébastien, le droit à avoir sa chance.
Bonjour à tous. 8e et 3e sous-section réunies du Conseil d'État, arrêt du 14 avril 2008. Les faits étaient les suivants. Le garde des Sceaux et le ministre de la Fonction publique avaient adopté une nouvelle réglementation relative aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps de l'administration pénitentiaire. Une telle réglementation est habituelle qui vise seulement à définir le profil physique minimum auquel doivent répondre les agents publics en fonction de leur future affectation. Cependant, pour qu'une telle réglementation soit légale, elle ne doit instituer aucune discrimination physique qui ne soit rendue absolument nécessaire par les caractéristiques propres du poste en cause ou des éléments liés au statut de fonctionnaire. Or, la réglementation édictée par les ministres compétents pour le recrutement des agents des services pénitentiaires comportait la disposition suivante. Les candidats au concours ouvert pour le recrutement dans ces corps doivent notamment n'être atteints d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée. Un syndicat des services pénitentiaires, estimant que cette disposition créait une discrimination illégale, avait saisi le juge administratif pour qu'il prononce l'annulation de la disposition en cause. À première vue, le texte incriminé ne faisait jamais que décliner une règle légale. Le statut des fonctionnaires prévoit ainsi explicitement que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap ». Or, l'affection évolutive dont est atteint un candidat implique qu'à un moment ou à un autre, dans un avenir plus ou moins proche, sa maladie risque de l'empêcher d'accomplir sa tâche. Envisager, selon cette perspective, la disposition incriminée ne faisait jamais que mettre en place un contrôle préventif, en interdisant à des personnes de concourir dans la mesure où, de toute façon, au bout du compte, leur candidature ne serait pas retenue en raison de leur maladie évolutive. Cependant, il s'avère qu'une telle analyse présente un défaut essentiel. Et c'est sur ce point que le juge a fait porter son contrôle. La procédure que mettait en place le texte incriminé n'avait pas seulement un caractère préventif. Elle avait aussi un caractère automatique. La seule constatation que le candidat était atteint d'une maladie évolutive suffisait à l'exclure du bénéfice du concours, en dehors de tout examen particulier de sa maladie et des possibilités existantes de compensation de son handicap. Si la discrimination fondée sur l'incapacité physique à exercer pleinement la fonction confiée est tout à fait légale, la discrimination automatique instituée par la disposition incriminée était, elle, contraire au droit. Car la première des discriminations, et celle qui peut le moins recevoir une justification, est celle qui consiste à interdire à une personne que sa situation soit même examinée. C'est la discrimination qui bafoue le droit d'un individu à avoir une chance de concourir, alors que l'examen individuel de son cas pourrait lui ouvrir l'accès, en dépit de sa maladie, au poste qu'il souhaite occuper. Pour cette raison, le juge administratif déclare illégale la disposition attaquée. Au plan pratique, les conséquences d'une telle décision pourraient paraître assez faibles, puisque le principe d'une discrimination fondée sur l'état physique d'un individu n'est pas remis en cause. Pourtant, la seule réaffirmation du droit de chacun à avoir une chance de concourir et le bénéfice que pourront en tirer les quelques-uns dont la maladie sera jugée compatible avec l'exercice de leur fonction suffisent amplement à justifier cette décision. Le droit, ce sont aussi des principes qu'il appartient au juge de rappeler, comme ici, puissamment.
C'était la chronique de Sébastien Miller. C'est la fin du bien commun proposé tous les mercredis dans le cadre de Questions d'époque par Antoine Garapon avec la collaboration d'Harold Épineuse et de Claire Barabé. À la coordination des Questions d'époque, Inès De Bruyne, à la réalisation Doria Zénine et à la prise de son ce matin, Alain Benoît. La semaine prochaine, Antoine, sauf contre-indication, vous nous proposerez un dialogue entre deux anciens cadres des services secrets, l'un français et l'autre américain, pour une émission sur le renseignement comme nerf de la guerre, dans le cadre d'une semaine spéciale de France Culture sur les guerres de demain, en contrepoint du 90e anniversaire du 11 novembre 1918, et à laquelle s'associent les questions d'époque, une semaine donc transversale, où il sera aussi question, en plus de votre analyse du renseignement aujourd'hui, de l'industrie française de l'armement, de la notion de pacification, des conflits en Arctique et encore de la cyberguerre comme guerre potentielle du 21e siècle. Mais en attendant, on se retrouve demain à 11h pour les questions d'époque avec la Société des Nations de Madeleine Mukama-Bano. Bon après-midi à l'écoute de France Culture. Tout de suite, à midi, les titres du journal et tout arrive.